du côté de chez soi.
Une praticienne à l'écoute d'un autre praticien. Bonjour, c'est Nathalie Ladrière. Vous êtes sur Du côté de chez soi. Aujourd'hui, nous recevons Claudine Kotsonis, art-thérapeute et sophrologue sur Seille. Claudine, aujourd'hui, donc, vous allez nous présenter l'art-thérapie. Alors, c'est une technique qui est assez peu connue. Je vous laisse la présenter.
Oui, tout à fait. Alors, l'art-thérapie, effectivement, c'est une technique qui est encore aujourd'hui peu connue. Alors, l'art-thérapie, c'est tout d'abord une branche de la psychologie qui est de plus en plus utilisée et reconnue en France. Elle est déjà bien implantée dans la plupart des pays européens voisins. Je pense par exemple à l'Allemagne ou à la Grande-Bretagne. L'art-thérapie est aussi beaucoup utilisée aux États-Unis et au Canada. En France, par exemple, le premier master en art-thérapie a vu le jour à la Sorbonne en 2011.
Oui, c'est assez récent en fait.
Tout à fait. Hein, officiellement, ça commence à être reconnu de façon assez récente, bien que ce soit des pratiques qui sont utilisées en institution depuis un certain temps.
Alors, en quoi ça consiste? Parce qu'on imagine un petit peu ce que ça peut être, mais concrètement, ça se passe comment?
Je vais plus particulièrement vous parler ici de la pratique en individuel, parce que j'exerce aussi en institution, mais ça serait un petit peu différent au niveau des processus. En individuel, on peut vraiment dire que l'art-thérapie, c'est une forme de psychothérapie médiatisée. Il ne s'agit pas d'une animation ou d'un temps créatif. Médiatisé, c'est-à-dire qu'on va utiliser différents supports. La verbalisation, c'est-à-dire la parole. Dans une psychothérapie conventionnelle, c'est la prise de parole qui sera priorisée. Ici, ce seront plutôt des supports ou médiations qui vont jouer le rôle de tremplin pour une meilleure connaissance de soi et pour favoriser l'émergence de conflits inconscients et sous-jacents. C'est-à-dire D'accord. qu'ils ne sont pas forcément présents ou la personne n'en a pas forcément conscience.
Tout D'accord. à fait. Donc, concrètement, ça peut être, par exemple, utiliser deux petites figurines Schtroumpf et avec le papa et l'enfant et voir si ça révèle quelque chose. Ça serait ça? Je dis papa, mais ça peut être la maman, hein, surtout.
Non, voilà. Alors, les figurines, effectivement, on va beaucoup les utiliser avec les enfants. J'ai de très bons résultats avec les enfants qui vont transférer sur des figurines leurs problématiques. Pour les adultes, ça sera un petit peu différent. On ne va pas forcément symboliser directement nous-mêmes le personnage. Hein. Le D'accord. personnage va être créé par...
va être plus des symboles, ça serait ça
Oui, voilà.
D'accord.
Ce qui est important aussi, c'est que ces outils favorisent un engagement psychique et corporel de la personne dans cette visée thérapeutique. On va vraiment dire que c'est une pratique de soins qui est fondée sur l'utilisation thérapeutique du processus de création active de la personne. C'est un point quand même important
oui.
qui va faire un petit peu la différence.
Alors juste pour expliquer à nos auditeurs, en fait, le fait de vivre la thérapie de façon corporelle est présupposé, enfin, il y a eu quelques études qui l'ont démontré, que le résultat est plus important que lorsque seulement on l'imagine, en fait. Donc
Tout
le fait de
fait.
Vivre est
Tout
très
à
important.
Fait. Ça va mobiliser plusieurs, on va dire même au niveau neurologique, plusieurs zones du cerveau, plusieurs mémoires. Voilà, et non pas uniquement le cerveau gauche qui est plutôt tout ce qui est la logique cartésienne, etc. On va aller plutôt dans une perception globale et effectivement, ça peut aller quelquefois beaucoup plus loin que ce qui est obtenu comme résultat avec la parole et même de façon quelquefois étonnante. Alors évidemment, il n'y a pas de miracle, hein. Bien sûr, on ne va pas dire que c'est une pratique miraculeuse, il faut une implication, une envie de la personne de travailler sur elle, mais c'est vrai que j'ai observé des résultats tout à fait étonnants pour des personnes qui avait échoué dans les thérapies
conventionnelles
uniquement basées sur la parole, voilà, en vis-à-vis. C'est pas du tout une pratique artistique ou esthétique. Une certaine spontanéité est nécessaire pour mobiliser au mieux les processus psychiques et ne pas intellectualiser tout de suite dans un premier temps et bloquer ce qui pourrait apparaître un petit peu de la face cachée de l'iceberg.
En fait, il faut laisser libre cours à son enfant intérieur, quoi.
Tout à fait. Nathalie, vous avez tout à fait eu le mot dessus.
C'est bon, je peux dire.
Voilà. Et c'est important de dire qu'il n'est pas du tout nécessaire d'avoir une facilité au niveau artistique ou même des goûts artistiques. C'est vraiment un travail qui est basé sur des représentations mais pas du tout dans le sens artistique. D'ailleurs, c'est plus difficile de travailler avec une personne qui a fait du dessin, qui cherche déjà de la technique, etc., qu'une personne qui n'a absolument aucune connaissance et qui au départ dit mais je sais pas dessiner, je sais pas faire ça, je sais pas faire ça. Justement, elle va laisser apparaître la spontanéité sans forcément intellectualiser et essayer d'avoir un résultat. On n'est pas du tout dans la recherche de résultats, d'esthétisme.
Est-ce que vous avez des exemples à nous donner de cas concrets ?
Par rapport au secret professionnel, je ne vais pas vous donner des exemples concrets.
Des exemples, oui.
Voilà, mais par contre, je peux vous dire des pratiques au niveau concret. Le dessin projectif. Hein. Alors, crayonner, dessiner, on peut dire que c'est faire signe avec des traces. Traces du passé qui peut être difficile à aborder, traces de blessures, d'actes manqués. Mais aussi, bien sûr, traces de notre élan vital, hein, qui est toujours présent et qui attend d'être activé, réactivé. On est bien dans l'ici et maintenant, notre élan vital qui peut apparaître pour que se concrétiser de la suite par le quotidien. Alors, il ne s'agit pas de revisiter uniquement le passé ou de mettre uniquement l'accent sur les points négatifs de son histoire, mais l'objectif, c'est bien de transformer, d'avoir un nouveau regard, de laisser apparaître un nouveau espace potentiel, un espace de jeu, comme disait Winnicott, vraiment, où la personne va redécouvrir des zones qu'elle pensait, auxquelles elle n'avait pas accès, voilà, enfouie.
La politique de l'autruche, hein.
Voilà, tout à fait, ou même dont elle croyait qu'elle n'avait pas la capacité d'y aller.
D'accord.
Donc, c'est cet objectif-là. Même si on revisite des choses, c'est plutôt pour trouver des clés de compréhension et trouver de nouvelles ouvertures dans le quotidien. Voilà, alors par exemple, dans le conte, pareil, hein, l'histoire, l'objectif, c'est pas d'écrire une histoire, mais c'est de trouver les clés de sa propre énigme. Le conte va relier la personne à certains mythes ancestraux qui, à un moment donné, nous ont façonnés, hein, de par notre héritage aussi intergénérationnel, bien sûr.
D'accord. Donc, le conte, ça va être la personne qui va construire son conte ou c'est comment ça se passe ?
Alors là, on va utiliser des thèmes suivants, bien sûr. C'est tout à fait adapté à la personne. Il n'y a pas de méthode, hein, en art-thérapie. On est vraiment dans un mouvement, un flux qui va se faire d'une séance sur l'autre. On ne peut pas dire d'entrée, je vais faire telle technique ou telle technique. C'est vraiment, et même, on peut avoir envie ou prévoir de faire quelque chose avec une personne et au cours de la séance, on va aller vers autre chose. Le thérapeute découvre aussi la personne. Il ne doit pas avoir d'idées préconçues sur la personne.
Bien sûr.
Effectivement, on peut vraiment, par exemple, travailler sur le monde des possibles, les obstacles, les amis, les clés, les pièges, les zones d'ombre. Tout ça, ça peut être inclus dans une histoire que la personne peut inventer. Mais elle-même va se découvrir à travers ses propres représentations qui viennent souvent de l'inconscient.
Donc du coup, ça s'adresse à tout le monde, ce type de thérapie ? Enfin, j'imagine qu'il faut savoir déjà tenir un crayon pour pouvoir dessiner, parler.
Alors c'est le seul prérequis.
Voilà,
c'est le seul prérequis.
Les bébés, non, mais voilà, à partir de quoi ? C'est à peu près 2-3 ans ?
Disons qu'on peut avoir de l'art-thérapie en institution pour les très jeunes. Moi, personnellement, je reçois des enfants à partir de 6 ans, des adolescents et des adultes. Hein, parce que pour moi, à partir de 6 ans, ça me correspond bien au niveau de la symbolisation à cet âge-là. Et donc, je peux vraiment les emmener dans des différentes pratiques. Mmh. Sachant que les enfants et les adolescents sont particulièrement réceptifs à ce type de thérapie.
Parce qu'ils sont encore dans l'imaginaire.
Ils sont tout à fait dans l'imaginaire. Hein, et l'imaginaire a une place très importante. Et ils ont souvent du mal à mettre des mots, comme nous l'entendons, sur leur mal-être, leurs difficultés. Et donc, c'est vraiment un moyen de rentrer en contact avec les enfants, les adolescents aussi, hein, qui quelquefois sont bloqués par la parole ou n'arrivent pas vraiment à expliquer ce qu'ils ressentent. Bon, par rapport aux enfants, on peut par exemple avoir comme indication des peurs, des angoisses, des phobies, des troubles psychosomatiques, c'est-à-dire des symptômes physiques qui ne sont pas forcément explicables ou expliqués.
Comme les maux de ventre le lundi matin.
Exactement, voilà. Hein, alors, ça renvoie à beaucoup de choses, mais effectivement, comment expliquer ça, hein? Donc, on n'a pas aujourd'hui de réponse fiable et universelle pour chaque enfant, donc ça permet de vraiment pouvoir s'adapter à l'enfant, son histoire et ce qu'il ressent. D'hyperactivité aussi, qui peut être la manifestation d'une angoisse, hein, sous-jacente, des difficultés de concentration. Alors, bien sûr, évidemment, il peut y avoir un aspect neurologique, mais je pense que c'est important de toujours explorer, hein, s'il y a d'autres choses qui amènent ça au niveau des angoisses, au niveau des choses qui n'ont pas pu être exprimées. Alors, aussi, bien sûr, en conséquence, ça peut être un désinvestissement des apprentissages, parce que l'énergie de l'enfant va être mobilisée pour régler d'autres soucis, justement.
Bien sûr, oui.
Alors, pour les adultes, l'art-thérapie peut être indiquée, Vraiment, il y a beaucoup d'applications en cas de difficulté, d'angoisse, de phobie, de troubles psychosomatiques, mais aussi de syndrome dépressif pour surmonter un deuil, en cas de difficulté relationnelle aussi. Hein, la thérapie peut aussi aider à voir comment on se positionne dans un système, qu'est-ce qu'on fait comme répétition, quel rôle on a tendance à prendre. J'utilise aussi les jeux de rôle, justement, hein, c'est la dramathérapie. Le burn-out, c'est-à-dire on peut même aller vers des positions où on se fait constamment harceler. Pourquoi On peut bien sûr aussi aller vers l'art thérapie simplement pour du développement personnel, hein, sans forcément avoir un problème aigu, grave, pour travailler l'estime de soi, la confiance en soi, l'expression des sentiments, des émotions. Il y a beaucoup d'indications.
D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des contre-indications par rapport à ce type de thérapie ?
En libéral, ça va être un petit peu différent. On va recevoir un public, qui n'a pas de troubles psychiques graves, par exemple comme des psychoses, hein, voilà, qui pourront faire de la thérapie, mais là, ça sera plutôt dans le cadre de l'institution. En fait, c'est tout à chacun. Voilà, les personnes qui ont vraiment des troubles graves, c'est plutôt dans le cadre d'un groupe encadré de façon différente.
Ce sont des thérapies qui sont longues ou ce sont des thérapies qui sont plutôt brèves? Alors j'imagine qu'on peut pas donner un nombre exact de séances, mais il y a quoi en moyenne comme durée ce genre de thérapie?
Donc l'art thérapie, on peut dire que c'est vraiment, on peut l'adapter, hein, à ses besoins, ses envies, son ressenti. Mais d'une façon générale, moi, je situe l'art thérapie dans le cadre des thérapies brèves, hein, c'est-à-dire, je ne vais pas dire à la personne qu'elle part pour des années de
suivi.
De suivi, comme par exemple la psychanalyse, qui convient d'ailleurs très bien à certaines personnes, hein, soit dit en passant. Mais on va dire que généralement, je pense qu'un suivi, si il est adapté dans le cadre des thérapies brèves, doit donner des résultats dans les 6 mois à 1 an, quand même. Hein, on n'est pas sur. Après, rien n'empêche d'essayer. Il n'y a pas, comme tout, on ne veut pas s'engager pour 6 mois. C'est aussi selon le ressenti de la personne, bien sûr.
Oui, hein. Ça, c'était un prérequis dans tout,
voilà,
dans toute
façon générale,
thérapie ou pratique, effectivement.
Tout à fait. Voilà. Ce qui est important, par contre, si la personne elle veut travailler sur elle-même et avancer, c'est au début la régularité.
Oui.
On ne peut pas faire une séance, puis 2 mois après ou 1 mois après une séance, au début. Après, c'est différent.
Il faut initier le mouvement.
Voilà, tout à fait.
Bien, écoute, Claudine Kotsonis, nous vous remercions. Je rappelle que vous êtes art-thérapeute et sophrologue sur Seil. Vous avez un site qui s'appelle psy-seil.fr. Merci beaucoup.
Merci Nathalie.
Au revoir.
Au revoir.